Émission Reprise de Terre. Nous sommes un groupe d'habitants et habitantes de lieux en lutte. Des paysans, des paysannes, des chercheurs-chercheuses, des militants, des militantes. Et nous avons construit une dynamique d'enquête collective sur ce que l'on appelle les reprises de terre.
Nos enquêtes répondent à un besoin stratégique, s'outillé pour inventer des tactiques foncières, politiques et juridiques pour contrer l'accaparement des terres et organiser la vie autour de communs auxquels contribuent tous les êtres vivants qui habitent un lieu.
Et bonjour, vous êtes sur Radio Tout-Terrain pour une émission menée avec le collectif Reprise de Terre, collectif d'enquête politique qui documente les mécanismes d'accaparement et les alternatives de reprise de terre. Nous sommes le 8 février 2026 et notre collectif s'est réuni pour un week-end d'échange dans la Drôme, plus précisément dans la région du Diwa, dans le petit village viticole de Vercheny-le-Haut. Dans cette émission, nous allons vous restituer les initiatives de reprise de terre que nous avons croisées au cours de ce week-end. Alors on parlera coopératives agricoles, lieux d'accueil, exil, accès à la terre et projets cartographiques. Pour animer cette émission, nous sommes autour du plateau en compagnie de Julie, Allé, Lucie, Zillé, Romy, Damien et moi, Léa. Salut à tous.
Salut. Salut.
Alors, pour commencer, on va vous parler de la Fondation Ardouvin, qui est un village d'enfants propriétaire de 100 hectares dans le village et qui, depuis quelque temps, amorce une réflexion sur les usages possibles de ces terres. C'est Lucie puis Allé qui vont nous en parler.
Salut. Alors, la Fondation Ardouvin, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Elle accueille des enfants parisiens en situation de difficulté familiale. Certains sont partis, d'autres sont restés à Vercheny où ils ont tissé des liens forts. Et 75 ans plus tard, 65 mineurs y vivent, placés dans 11 maisons par l'aide sociale à l'enfance. La Fondation, elle avait aussi un projet agricole à visée d'autosubsistance et d'intégration par le biais du travail paysan avec des brebis, cochons, chevaux et dans les vignes. Aujourd'hui, 17 hectares de vignes sont cultivés par l'Union des jeunes viticulteurs récoltants dont on vous parlera. Et hier, on a rencontré Stéphanie. Elle travaille sur le devenir des terres et du bâti abandonné de la Fondation, dont la rénovation coûteuse demande une vraie réflexion en termes de modèle économique. Ces bâtiments, ils sont inoccupés depuis 2022 et 50 hectares sont aujourd'hui pâturables mais dispatchés. Alors comment mettre en place un nouveau projet d'installation pour des agricultrices et ou pour des dynamiques associatives d'insertion ou d'approvisionnement local? Dans cette vallée, avec les départs à la retraite de paysans, beaucoup de terres se libèrent, d'autres sont en proie à la déprise, mais les conditions d'accès et d'usage ne sont pas facilement propices à de nouvelles installations paysannes. Par exemple, les hectares cultivables de la Fondation n'ont qu'un accès limité à l'eau. La structure se demande alors comment concilier la réhabilitation du bâti et de nouvelles dynamiques paysannes sur ces terres.
Et notamment, on a identifié l'enjeu du lien en fait, entre ce bâti et potentiellement le foncier agricole qui sont actuellement disponibles. Pour donner quelques précisions, donc il y a plusieurs centaines de mètres carrés de bâti qui sont actuellement amiantés, qui ne sont pas isolés, pas habitables en l'état, et qui ne sont pas isolés depuis plusieurs années. Et donc se pose la question de comment prendre en charge, comment la Fondation peut prendre en charge la rénovation en fait, de ce bâti, avec quel modèle économique cela peut être possible. Et notamment, la Fondation se pose la question de garder une partie de ce bâti pour loger donc, les paysans qui exploiteraient les terres et qui appartiennent à la Fondation. Mais donc, se pose la question de comment faire en sorte que ces logements ils restent en lien avec ces activités agricoles-là sur le long terme. Et donc, comment créer un lien juridique en fait, entre les terres et les logements agricoles qu'on voudrait associer. Et donc, se définissent plusieurs options. Par exemple, le fait d'inclure les logements réhabilités dans le bail rural en même temps que les terres, ou bien d'inclure des acteurs tiers comme des bailleurs sociaux pour faire la gestion locative. Mais voilà, la question du modèle économique, elle n'est pas du tout résolue pour l'instant. Et ça pose des questions juridiques, économiques assez complexes. Et pour dézoomer un petit peu de cette question, je peux Moi, je fais un travail de thèse sur le sujet de l'accès au logement et des conditions de logement des agriculteurs aujourd'hui en France. Et je peux dire que c'est une question qui est très complexe en France, qui prend des formes différentes par rapport au territoire. Mais disons que les questions d'accès au logement concernent à la fois les agriculteurs hors cadre familial, mais aussi en fait les agriculteurs qui s'installent en reprenant une ferme familiale. Et notamment en Drôme, on est dans un territoire où il y a une pression résidentielle en fait sur le foncier, sur le bâti, et donc souvent les agriculteurs peuvent se retrouver en compétition avec d'autres catégories de population qui veulent habiter dans les espaces ruraux, mais qui donc modifient en quelque sorte les dynamiques foncières aussi de ces espaces en mettant potentiellement en difficulté les agriculteurs qui doivent se loger avec des contraintes d'être à proximité de leurs terres.
Merci Alé. Alors on va maintenant vous parler d'un deuxième projet donc, qui est assez important dans le paysage agricole et qui nous a intéressés notamment sur les aspects juridiques. Il s'agit de la SCAEC, donc, qui est la seule et unique coopérative agricole en France. Et c'est Romy qui va nous en parler.
Oui, hier on a aussi rencontré Vincent, l'un des associés de l'Union des jeunes viticulteurs récoltants, qui produit du crémant et de la clairette de Die en AOC. Donc l'Union des jeunes viticulteurs récoltants, ou l'UJVR, ça nous a intéressés en tant que collectif reprise de terre, parce que c'est une coopérative qui fonctionne sur un modèle qui, pour l'instant, est unique en France, donc comme l'a dit Léa, une SCAEC, Société Coopérative Agricole d'Exploitation en Commun. L'histoire, elle a commencé en 1961, quand 8 vignerons de la région de Vercheny ont décidé de mettre en commun leurs vignes, qu'ils avaient donc soit en propriété, soit en fermage, ainsi que leur matériel et tout leur travail. Au départ, la SCAEC avait 8 hectares de vignes et aujourd'hui, c'est 60 hectares qui sont cultivés en commun par la deuxième génération de viticulteurs impliqués dans la SCAEC. Les vignes sont principalement en fermage. Il y a notamment 17 hectares de vignes qui sont en fermage auprès de la Fondation Ardouvin dont on a parlé tout à l'heure, qui est propriétaire. Et il y a aussi 14 hectares qui ont été rachetés en direct par la SCAEC en propriété pour régler une fois pour toutes des problématiques de transmission du foncier au moment du changement de génération. Donc aujourd'hui, c'est la SCAEC elle-même qui a la maîtrise de tout le foncier viticole qui est travaillé par les associés. Il y a eu un renouvellement de génération, mais c'est toujours 8 associés qui travaillent ensemble aujourd'hui et qui font tout depuis le travail des vignes jusqu'à la vinification et la commercialisation. Ils ont tous un statut qui est le statut d'associé salarié de la SCAEC. Donc chaque associé est salarié, ce qui leur donne un accès à une sécurité de revenus et aux droits sociaux qu'on a en tant que salarié et qui manquent souvent aux paysans et aux agriculteurs, notamment au niveau de l'accès à la retraite. Et d'un autre côté, c'est un fonctionnement du coup qui oblige aussi la SCAEC à sortir des salaires tous les mois, contrairement à dans un GAEC par exemple, où quand on a un coup dur, une difficulté économique à un moment, on peut se payer moins, voire ne pas se payer du tout en tant qu'associé. Du coup, dans le contexte de crise viticole généralisée aujourd'hui en Europe, à laquelle la clairette de Die n'échappe pas, Vincent nous a bien expliqué que passer par le statut de la SCAEC, c'est à la fois un avantage pour tous ses droits et cette sécurité, et en même temps une contrainte aussi tenir la route économiquement. L'autre avantage qu'on a identifié au niveau de la SCAEC, c'est que c'est une structure qui permet de faciliter le renouvellement des générations par le fait qu'elle permet de maintenir les parts sociales relativement accessibles pour les nouveaux installés. Donc quand un nouveau viticulteur souhaite s'installer en s'associant avec la SCAEC, il va passer par une période de salariat, ce qui permet aussi de tester le travail en commun avec les autres associés. Et puis, il prend sa part sociale dans la SCAEC et la part sociale vaut seulement 22 000 euros. Alors seulement, entre guillemets, bien sûr, mais en fait, pour avoir accès à un outil de production comme celui-là, avec du foncier, des terres, des vignes, du matériel, une cave très fonctionnelle, c'est vraiment pas cher. Donc, l'Union des jeunes viticulteurs récoltants, c'est aujourd'hui la seule structure qui est sur ce format de SCAEC en France, mais Vincent nous a dit qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'y intéressaient et qui leur posaient des questions sur ce modèle, donc qui pourrait bien être répliqué ailleurs. On remercie du coup beaucoup Vincent qui a bien voulu répondre à toutes nos questions sur le fonctionnement de la SCAEC et qui nous a fait une visite très complète de la cave et qui nous a même offert une petite dégustation de crémant et de clairette de Die qu'on vous recommande carrément si vous passez dans le coin.
Merci Romy. Alors on continue notre enquête sur, sur le territoire drômois. Et on va maintenant parler de l'association Voix Libre et de la Maison d'Elisa avec Damien, qui est membre de cette association, et Zié, qui est habitant de la Maison d'Elisa. Alors, on se décale un petit peu de nos sujets de reprise de terre, mais pas totalement non plus. Donc Damien, toi, tu fais partie de cette association qui a pour objectif d'organiser l'accueil de personnes exilées dans la vallée et de faire de l'éducation populaire autour des questions migratoires. On n'est pas très loin de Briançon, 3 heures à peu près, mais on n'est pas non plus juste à côté. Donc comment on explique un peu historiquement que des personnes exilées se retrouvent sur ce territoire et comment ces enjeux d'accueil se sont mis en place ici?
Ouais, salut tout le monde. Je vais essayer de répondre un peu, même si j'étais pas à ce moment-là de la constitution de Voix Libre Drôme, qui porte du coup la Maison d'Elisa. Mais en effet, le point de départ, c'était quand même justement beaucoup d'arrivées à Briançon, et de fait, vers Chenille, il y a la ligne Paris-Briançon qui passe. Il y a même le train de nuit qui passe juste en dessous là. Et donc du coup ça a été une des routes après être arrivé pour les personnes qui traversaient à cet endroit-là par la suite de une route en France. Et donc du coup en 2017-18 il y avait pas mal de personnes qui arrivaient dans la vallée et qui se retrouvaient sans solution. Et donc du coup il y a eu une vraie mobilisation habitante de familles du territoire, notamment autour de Saillant, qui ont fait de l'hébergement et de l'accueil chez eux dans chacune des maisons qui étaient volontaires, mais ça répondait pas à tout, et de fait c'est compliqué d'imaginer d'accueillir quelqu'un sur du très long terme dans son foyer. Donc ça répondait pas à tout, mais voilà, vraiment à l'urgence. Mais du coup, dans la foulée, il y a eu ce groupe d'habitants, d'habitantes qui s'est réuni pour essayer de trouver une solution un peu plus pérenne à ces personnes qui arrivaient tout juste et avaient besoin de poser leurs valises quelques mois, quelques années, le temps d'atterrir, de construire son projet, et puis surtout de trouver les moyens d'avoir une situation un peu plus stable et des possibilités de travail, une situation régulière. Et pour tout ça, ça demande vraiment du temps. Mais donc du coup, c'est ça le point de départ, et ça s'est traduit par la suite avec la mise à disposition d'une maison qui venait d'être achetée par un couple militant qui faisait partie de ce groupe-là, à l'association Voix Libre Drôme, du coup. Et il y a eu un grand élan de solidarité. Il y a eu des gros travaux de remise en normes, remise en état, isolation, qui ont été faits avec des chantiers bénévoles, avec des coups de main de professionnels également. Et tout ça a permis du coup de 2018 jusqu'à maintenant d'avoir une maison fonctionnelle qui accueille une dizaine de personnes, on va dire rapidement, de plein d'origines différentes, plein d'âges différents, de différents genres. Les âges, ça va de 10 mois pour Mariam qui est née l'an dernier, jusqu'à une cinquantaine d'années pour les plus anciens. Et donc ça permet de pouvoir avoir un toit et puis ensuite d'être en relation avec les différentes ressources, les partenaires, et puis petit à petit de faire sa vie dans le coin. Et ça, Zié pour nous en dire deux mots après. Juste pour finir sur l'aspect un peu immobilier entre guillemets, c'est que il y a eu à un moment le choix de ces propriétaires de vendre, parce que c'était pas possible non plus de pouvoir mettre à dispo ad vitam aeternam cette maison. Et donc du coup ça a été une vraie question en 2022 de qu'est-ce qui se passe en fait si cette maison est vendue. Donc ils étaient partants pour ne pas la vendre à des personnes qui auraient pu, vu le contexte immobilier et l'attractivité de la Drôme sur le résidence secondaire, qui auraient pu imaginer se faire une vraie plus-value. Donc ils ont poursuivi dans leur acte militant, mais donc du coup de notre côté, l'association Voix Libre, on a mis en œuvre pas mal d'énergie pour racheter cette maison. Et donc du coup on a fait des gros appels à dons, souscriptions de prêts solidaires. Il y a aussi quelques fondations qui nous ont aidés. Mais donc du coup, tout ça, ça nous a permis de lever 320 000 euros en quelques mois en 2022. Et ça nous a permis de devenir propriétaire de cette maison. Voilà, après ça pose plein de questions et il reste des choses à voir, entre guillemets. Mais en tout cas, on a cette maison qui est fonctionnelle, qui existe, qui est rempli et qui est animé aussi avec deux collègues salariés qui ont des temps partiels, mais qui permettent d'accueillir, d'accompagner les personnes qui sont là et d'animer la vie de la maison, d'organiser les travaux, parce qu'il faut perpétuellement continuer à faire des réfections, rénovations, organiser des événements, on y en parlera aussi un petit peu, et puis faire le lien avec l'ensemble des partenaires. Ça me permet de citer les collègues d'autres endroits un peu plus en amont ou en aval de la vallée, mais je pense notamment à la Trame, à Exilé et Crétois. On a la chance d'avoir une diversité de structures qui travaillent sur ces questions-là, et il en faut parce que les problématiques sont dingues et très très fortes. Et donc ça reste le deuxième volet qu'on continue de faire, notamment avec les cantines et les guinguettes, pour accueillir du monde et tenter de rendre compte de ce que c'est d'être un exilé et de toutes les merdes et les difficultés, les bâtons dans les roues, la complexité dans laquelle ils sont, de rendre visible et compréhensible aussi l'ensemble de ces situations-là pour les personnes lambda qui ne sont pas forcément concernées par les choses.
Tu l'évoquais un peu là avec l'achat de la maison. On est sur un territoire qui est quand même très attractif donc où il y a une pression foncière, de la gentrification aussi, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution des prix du foncier et peut-être les impacts que ça a sur les questions de logement et sur les questions agricoles là, sur le territoire ?
Ouais, alors j'ai pas les chiffres en tant que tel, mais en effet, c'est j'ai presque envie de dire, on n'est pas les pires dans la gentrification ou dans la pression foncière. On n'est pas en littoral ou en proximité immédiate de grosses villes. Mais de fait, le territoire de la Drôme, et je comprends pourquoi, parce que j'y vis, mais en tout cas, est attractif parce que voilà, il y a une forme de qualité de vie assez incroyable. Mais en effet, c'est un phénomène qui date un petit peu, mais qui, comme partout, s'est accéléré. En post-Covid, avec un renforcement de ce phénomène de résidence secondaire, qui fait que le marché immobilier, l'accès au logement devient tendu, très compliqué. Allez le mentionner, même pour des agris en place qui sont même pas forcément des néo-ruraux, il y a une grande tension sur l'accessibilité de ces biens. On a entendu récemment, ça commence un peu à travailler sur ces questions-là dans la vallée, mais il y a eu une petite campagne sur le fait que ça y est, à Die, et juste en proximité immédiate de Die, il y a 1000 annonces sur cette fameuse plateforme de location saisonnière, et donc 1000 sur le bassin de Die, c'est juste énorme, 1000 logements qui pourraient permettre d'accueillir, enfin juste de permettre l'hébergement de personnes qui vivent ici, alors que de fait, quand on vient avec un pouvoir d'achat suisse ou même de profession intellectuelle et ou urbain et ou avec un bagage financier, économique, avec du capital, ça a fait de fait augmenter les prix. On peut se retrouver aussi sur la question agricole en tant que telle avec cette pression-là qui arrive, parce que y a des biens, dans les biens agricoles, il peut y avoir du bâti sympa, un petit mas qui peut être chouette pour venir passer 15 jours de ses vacances dans la Drôme. Donc il peut y avoir des détournements aussi sur le marché foncier la plus agricole, avec des séparations de biens et où les terres partent aux voisins et le bâti part sur justement ces marchés immobiliers non habitants, ou même des personnes qui achètent l'ensemble et font du travail à façon, ou prennent un troupeau, se mettent d'accord avec le voisin du coin pour faire une simili-exploitation entre guillemets. Donc c'est des phénomènes qui en effet sont assez forts et prégnants et qui par contre ne nous ont pas empêchés tout de même de réussir à faire cette pérennisation de ce super lieu qui fait aussi lieu ressource et centre et lieu repère pour l'ensemble de la communauté africaine qui passe dans le coin.
Et c'est justement de ça dont on va parler maintenant avec Zié, donc qui est habitant de ce territoire, habitant de la maison d'Elisa. Et avant de l'accueillir sur le plateau, on va écouter Fin de ce monde, donc, qui est une recommandation de Zié.
Ils tiennent des propos dénigrants sur nos frères, sur les migrants. Les rois du monde, ils sont délirants. Il y en a même un qui veut bombarder l'Iran. Ils vivent comme des rois, des ducs et des vicomtes. Ils veulent nous faire croire que toutes les vies comptent. La police ne nous aime pas, donc nous l'évitons. On est des rescapés, on est sous, je le dis dans chaque morceau. Et là, tu vas pas y échapper. Je suis là depuis l'époque du 113 clan. Wesh Rimka, wesh échappé. Et là, je veux qu'on me laisse rapper. Je suis content quand dans mon frigo y'a du shit. Je suis content quand dans mon frigo y'a du lait. J'ai fait des faux pas, faut pas m'aduler. Si peu d'essence, tellement de choses à brûler. Elle veut rentrer dans ma tête comme Babidi. Quand y'a du bon bédo et de la bébida, je me sens comme Tristan, Cara et Pépita. Le talent ne suffit pas comme l'a dit Curdy. J'ai quitté Alice Cordier pour Annie Cordy. Nique ceux qui nous voient comme des animaux, qui viennent de Paname ou de la Picardie. Quand je les vois jeter tous mes rêves du cargo, je ressens une maxi colère de la tachycardie. Imagine Maxi Lopez qui tachycardie. Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour maudire ce monde. Hey. Quand je guette les infos, moi il me faut 20 secondes pour souhaiter la fin de ce monde. Walim, ça, y'a que toi qui sais. Pourquoi je parle pas ces derniers temps? Pourquoi j'ai mal ces derniers temps? Que j'écris moins ces derniers temps? J'avais plus d'inspi, mais merci Seigneur. T'as envoyé quelqu'un qui m'a brisé le cœur. Trois Isha heureux, ça rappe beaucoup moins bien qu'un Isha qui pleure. Et deux Isha qui pleure, c'est beaucoup trop chaud. Ça ramène tout Brooklyn comme quand B.I.G. meurt. Encerclé par des jeans mélancoliques qui m'encouragent à fuir et rester dans mon lit. Je croyais que c'était à cause du pilon, moi. Mais j'ai arrêté de pédave depuis. Je retrouve toujours de la moisissure chaque fois que je découpe une tranche de vie. J'ai pas envie de parler business, pas envie de parler affaires. Tu vois pas qu'on est les damnés de la terre. Un petit Africain attaché au dos de sa mère avec un wax. C'est plus confortable quand les tantines ont grossi. J'avais la même pose que Valentino Rossi. Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour me dire ce monde.
Ah, merci pour ce choix musical. On est les damnés de la terre, je trouve ça. Ça dit beaucoup, oui. Malheureusement. Bah, salut Zié, bienvenue. Tu veux nous dire deux mots sur cette chanson?
En fait, il y a reçu cette chanson par le biais d'une amie qui m'a dit, ouais, écoute, t'envoies une playlist, tu l'écoutes et tu me dis ce qu'il y en a. Et moi, dès que j'ai écouté, j'ai ressenti cette musique parce que c'est pas du côté, c'est pas un côté dénonciateur, mais plutôt un côté c'est les faits, tu vois, c'est qui vit, c'est qui il a vu aussi. Donc moi en tant que exilé aussi, me ressens dans, je vois, il y a ce ressenti là aussi d'appartenir à cette musique, même si c'est pas moi qui l'ai écrit, mais ouais, donc il me voit un peu dedans.
Donc c'était, ouais, on le rappelle, la chanson « Fin de ce monde » de Isha. Alors Zié, est-ce que tu peux... Enfin, nous, à Reprise de Terre, c'est vrai que notre axe d'entrée, c'est beaucoup les questions agricoles. Et on compagnonne notamment avec le collectif A4 qui travaille à comment des personnes exilées qui auraient un lien avec le monde agricole et qui souhaiteraient, enfin, ou qui seraient intéressées pour s'installer, développer des choses en France, comment elles peuvent faire. Toi, est-ce que, enfin, c'est quoi ton lien à ce milieu-là et tes aspirations par rapport à ça, s'il y en a?
Bon, mon lien avec la terre, c'est qu'au départ, quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans la terre, donc l'agriculture, l'élevage, les bovins et tout ça. Mais après, il y a des difficultés, donc ce qui a suscité c'est dû à mes difficultés, a fait que j'étais obligé de laisser mon pays et de m'exiler, de venir en France. Quand je suis arrivé en France, mon intention aussi, c'était de me lancer encore dans l'agriculture. Mais ce qui n'était pas possible, parce que déjà, pour me lancer dans l'agriculture, il fallait que je passe une formation. Donc, Je me suis tourné vers des associations et vers la mission locale qui offre des possibilités aux gens de pouvoir se former, même si tu n'as pas de moins de 30 ans. Oui, du coup, j'ai essayé de parler et on...
Pour revenir sur ton lien au monde agricole, qu'est-ce que tu faisais quand tu vivais encore dans ton pays comme type d'agriculture?
On faisait le maïs et des hectares de maïs, mais c'était de l'agriculture familiale. Et aussi, on avait de l'élevage de bovins, des animaux. On faisait le maïs, le coton, l'élevage de bovins. Et il n'y avait que ça comme ressource de nourriture et de finances. C'est-à-dire une moitié était pour la nourriture et une autre moitié était pour le côté financier. Mm-hmm. Pour pouvoir payer les dépenses ou les matériaux qui vont servir à une bonne agriculture. Mm-hmm.
Et donc, depuis que tu es ici, tu as essayé de trouver des formations, mais c'est compliqué, c'est ça?
Oui. Et je me suis d'abord rendu à la mission locale où j'avais appris par le biais des amis qu'ils offraient la possibilité aux gens de pouvoir passer des formations de moins de 30 ans. Et moi, comme j'étais dans cet âge-là, je suis arrivé, ça fait 3 ans, donc imagine un peu. Et le temps qui est perdu, pourtant il pourrait bien passer une bonne formation et de m'insérer correctement dans la société en tant qu'une personne exilée quand même. Mm. Et après, j'ai pas eu cette possibilité parce que mon cas a été refusé. Et je me suis dit peut-être que c'est parce que je suis une personne exilée que mon cas a été refusé. Donc, après, je me suis... Bon, quand il a vu ça, ça tardait trop et il a voulu passer, laisser le domaine de l'agriculture. Parce que je me suis dit, pour moi, c'est plus possible de travailler dans l'agriculture.
Et bah, tu sembles déjà avoir pas mal de compétences dans ce monde-là, donc pourquoi tu veux une formation? Pourquoi pas aller directement voir les agriculteurs, ou est-ce que tu as essayé que ça n'a pas marché?
T'as raison, mais... Il faut un truc que parce que quand tu as une formation, ton diplôme est plus valorisé et tu as plus de droits côté juridique, même parce que tu peux travailler avec des employeurs, tu ne sais pas pourquoi tu travailles ou ce que tu fais. Et vraiment, c'est comme la personne ne va plus essayer de t'apprendre parce qu'une personne un employeur qui essaie de t'apprendre, c'est que tu ne connais rien. Et il peut utiliser ce domaine-là à sa guise. Voilà. Donc, moi, le moyen que j'ai choisi, c'est de faire une formation pour pouvoir valoriser mes droits dans ce domaine. Pour dire que, bon, si mon employeur ne respecte pas mes droits, moi, j'ai une qualification, il peut me trouver un autre employeur pour travailler.
Dans le collectif de A4, il dénonce aussi beaucoup l'exploitation des travailleurs sans papier dans le monde agricole. Est-ce que toi, c'est des choses aussi que tu as vécues?
Bon, j'ai pas trop travaillé dans ce milieu-là. Et depuis 3 ans, j'ai travaillé qu'une seule fois, non, 2 fois dans les vignes. Contrairement au travail au black, là-bas, l'heure est mieux respectée que dans l'agriculture. Tu vois, l'heure est dans les vignes, tu es payé à 11 euros de l'heure. Pourtant, tu peux travailler de 6 heures jusqu'à 13 heures et tu reprends à 14 heures jusqu'à 18 heures. Tu imagines, tu es payé 11 euros de l'heure. Et sans compter la TVA, tout ça, c'est bien. c'est pas un travail, en fait, ça devient, parce que une fois dans les vignes tu peux déclarer ça, ce qui est quand même bien, mais t'es déclaré mais pas avec le SMIC, pas avec l'argent et le SMIC nécessaire pour pouvoir survivre.
Et est-ce que concrètement, il y a des choses aujourd'hui qui pourraient t'aider pour réussir à accéder à ce travail-là ou à ces formations?
Oui, je continue toujours de chercher encore des formations qui sont plus agréées, même à lancer des demandes de fonds sur Internet pour que les jeunes puissent m'aider à au moins passer des formations. Moi, c'est la qualification que je veux, tu vois, un travail qui est rentable, qui est plus mis en avant. Donc, je continue encore de chercher dans d'autres formations, ou peu importe, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou soit de l'élevage, mais à être qualifié, au moins ça. Et puis en plus, quand tu vas chercher le travail, c'est plutôt mis en avant de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, ou par quoi tu as pu passer avant d'arriver ici. Tu vois, tout ça, c'est plus mis en avant. Et il faut expliquer, il faut montrer les faits, il faut montrer les preuves que tu as pu, tu vois, passer par là, avant de faire. Moi, j'ai dit, travaille chez moi. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il travaille chez moi?
Ouais, tu n'as pas le CV qui correspond aux normes de, ici, le marché du travail, quoi. Ok. Tu disais aussi que parfois on ne te prenait pas suffisamment au sérieux quand tu allais frapper à la mission locale ou quoi, parce que tu es un jeune homme exilé, mais que s'il y avait un Français qui venait avec toi aussi, qui pouvait un peu plus. Enfin, que ça pouvait t'aider à faire valoir aussi tes droits.
Ce côté, ça parle plus de. Ça parle de la discrimination. Je ne suis pas trop sur la défensive, mais ouais, ça passe du côté de la discrimination, parce que tu peux aller avec des arguments nécessaires où pas mal d'informations, et tu prends toutes ces informations pour aller à la mission locale. Tu expliques ta situation et même s'il y a une faille qui permet de t'inscrire, ils voient une faille qui permet, qui peut dire évidemment ce jeune homme il a telle situation, mais on peut le prendre quand même on peut le proposer un agriculteur qui veuille le former. La mission locale est bien chargée, ils sont bien chargés pour ça, donc il y a bien pris ces informations avant de me lancer là-bas. Et quand tu donnes, même s'ils ne connaissent pas, mais tu les donnes, tu les dis, je suis en France, l'État français veut que des personnes, même des personnes exilées ou des Français, puissent venir chez vous pour bénéficier de vos services à tel âge. Moi, c'est l'âge qui est nécessaire. Donc, il me basait plutôt sur l'âge pour leur dire que, évidemment, il y a tel âge et vous pouvez éventuellement me proposer un agriculteur pour qu'il puisse faire une formation avec eux. Mais au lieu de ça, ils tournent la question. En fait, ils vont dans d'autres sujets pour dire que ce que je raconte est insignifiant.
Pour finir, on voulait présenter une initiative, un outil qui a été créé là sur le territoire auquel tu as participé, qui s'appelle Cartodroma, donc pour donner des ressources sur les lieux, les choses qui existent pour accompagner les personnes qui arrivent. On va écouter un extrait d'une vidéo que vous avez fait pour communiquer autour de cet outil, et puis après on t'en laisse nous en parler.
D'accord.
On te laisse nous en parler.
À chacun sa voix. conservé à Valenceville, voie D.
Cartodroma est une cartographie collaborative de l'accueil dans la Drôme. Elle est destinée aux personnes qui arrivent ou qui sont en cours d'installation sur ce territoire, aux personnes qui les accompagnent, au grand public.
Cette carte en ligne répertorie un maximum de lieux, d'acteurs et de ressources dans différents domaines de l'accueil.
Alors, Cartodroma, donc comme la vidéo vient de l'expliquer, donc c'est une cartographie qui donne des ressources pour les personnes exilées.
Exactement.
Du coup, toi, c'est quelque chose que tu n'as pas eu quand tu es arrivé. Oui. En quoi tu vois l'utilité pour d'autres qui arrivent?
L'utilité, elle est grande, hein, parce que quand je suis arrivé, c'était compliqué. J'ai d'abord été à la rue pendant quelques mois. Et c'est pas là, j'ai croisé des riverains qui ont vu ma situation et qui ont dit, bon, ok, bon, je connais telle personne qui peut te passer à une association et cette association peut-être elle peut te prendre en charge ou non. Donc, c'est comme ça, c'est par le biais des riverains qui m'ont vu comme ça, qui ont pris pitié, en fait, c'est des riverains qui ont pris pitié de me voir dans la rue, couché, à même le sol. Ils ont décidé de me donner à une association. Bon, si c'était par exemple, je voyais déjà là, si la cartodroma existait et que je pouvais voir le QR code évidemment dans les gares de train, les gares de bus, tout ça, il y aura des gens qui allaient me dire, ok, je sais comment tu peux bénéficier des services, des associations ou des endroits où on peut héberger des personnes exilées. Et voilà, ils te proposent un QR code, je tape, ça allait beaucoup plus facile pour moi. Mais au lieu de ça, la cartodroma n'existait pas. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Et de bénéficier de services, en plus des habits, des vêtements, des chaussures, il n'y en avait pas. Donc la cartodroma est une carte, en fait, qui est bienvenue pour... qui est fait notamment pour les personnes exilées, mais aussi pour les personnes avec des ressources moyennes.
Mmh. Ouais, c'est pas forcément que des personnes exilées,
non, c'est
des
pas
personnes,
forcément que des voilà, personnes exilées.
Et comment vous avez travaillé pour rassembler toutes ces ressources et qui fait partie de ce projet?
Ce projet était lancé par une chercheuse qui s'appelle Morgane. Et en collaboration avec Stéphane, l'un des salariés de la maison Elisa, avec Kaba et Imon Zier.
Tu as donné ta voix pour...
Oui, pour l'enregistrement, pour le montage vidéo, pour illustrer dans la carte comment tu peux utiliser le QR code, comment tu peux... changer de langue, même si t'es pas français, il y a plein d'exilés qui rentrent mais qui sont pas français, et on a adapté l'application pour que les gens ils puissent entendre ce qu'ils veulent entendre par la langue qu'ils souhaitent écouter. Donc la carte d'Oma est adaptée pour ça.
Je crois que le collectif avait aussi d'autres questions, donc je vais ouvrir la parole s'il y a des...
Oui, Zé, moi j'avais une question sur les autres activités auxquelles tu participes au sein de l'association Voix Libre et dans le cadre aussi de la maison d'Elisa. Et notamment, on avait entendu parler de guinguettes, de fêtes. Et je voulais te demander, est-ce que toi tu y participes à l'organisation de ces événements? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce que ça apporte aussi de faire ces genres d'événements? Qu'est-ce que ça apporte à toi, à l'association et aussi aux autres personnes du territoire qui ne sont pas bénéficiaires de l'association? Et voilà, qu'est-ce qui te fait rêver là-dedans?
Les activités de la guinguette étaient mises en place par l'association Voix Libre qui organise ces soirées pour récolter des fonds pour les habitants et aussi pour les accompagner pour les accompagner administrativement, mais même pas qu'administrativement, aussi pour en fait ça c'est pour en fait en général c'est pour aider les habitants et le pays aussi, les charges aussi de la maison. Et moi, ce qui m'a plu dans cette activité, c'est que étant dans un endroit où tu vois on est en la campagne, on voit pas assez de monde chaque jour, et ça c'est un moyen de rassembler les habitants de notre localité à voir que évidemment c'est des exilés, mais c'est des exilés aussi qui aiment la chaleur, qui aiment être entourés aussi des gens. Donc c'est un moyen pour nous d'avoir un moment de convivialité avec d'autres habitants. Comme ça, peu importe, on se voit dans d'autres endroits où, je ne sais pas. Mais là-bas, la personne, on peut être reconnu et ne pas être à moitié surcoté.
Merci Zier d'être venu sur notre plateau en dimanche matin et merci beaucoup pour tous les, enfin, ton témoignage, les savoirs que tu as apporté. Pour finir, c'est le moment de nos cartes blanches pour vous partager l'actualité des luttes et des outils autour des reprises de terre. Et on commence avec une actualité en Bretagne, à Lorient, où les agriculteurs se mobilisent contre les fermes-usines, avec Julie qui est là pour nous en parler.
Donc ces clameurs de joie et d'enthousiasme que vous avez pu entendre sont ceux en fait de citoyens, de militants, d'agriculteurs, collectifs, etc., qui sont venus soutenir dès 8h30 du matin le 15 décembre 2025 à Lorient. 12 militants qui comparaissaient au tribunal face à des acteurs de l'agro-industrie qui comparaissaient pour une action directe de désobéissance civile. Donc en effet, en mars 2022, dans le Morbihan, à Saint-Gérand, 50 activistes du collectif Bretagne contre les fermes-usines ont arrêté un train de fret qui transportait des céréales en direction d'élevages intensifs et d'usines qui défendent un modèle productiviste. Donc l'ont arrêté et ont construit un muret dans un temps très limité pour en effet montrer leur opposition à la perpétuation en fait d'une dynamique productiviste dans la région qui est très, très développée. Donc ces 12 prévenus ont comparu et ça a été une journée très importante parce qu'en effet il y a eu un grand soutien, un village militant mis en place à proximité du tribunal. Et donc symboliquement, c'était très important. En fait, ça a été l'occasion d'une prise de parole de la part de ce collectif, de rappeler en fait l'impunité qu'ont certaines entreprises dans la région et pas que dans cette région, mais en ayant des injonctions, des soucis économiques qui peuvent continuer à polluer les sols et s'accaparer les ressources. Et donc aussi avec une répercussion sur la santé des habitants localement. Et donc ça a été très important pour eux d'exister dans l'arène judiciaire et ça a été aussi couvert médiatiquement de façon très importante. Donc... un grand moment de solidarité et de convergence des luttes et des collectifs. Donc, il y avait les Amis de la Conf, les faucheurs et faucheuses volontaires d'OGM. Voilà, un grand soutien et en même temps un enjeu pour les prévenus qui essaient d'éviter les 3 à 6 mois de peine d'emprisonnement avec sursis. Donc voilà, je vous invite à suivre ce que fait ce collectif et le verdict sera rendu le 11 février. On les soutient, on espère qu'ils seront relaxés. Et voilà, c'est important de continuer la lutte pour se réapproprier les modes de production paysanne.
Merci Julie. Et donc pour finir, eh bien, on revient. On avait commencé donc, dans la Drôme, dans le Diwa, avec la création d'une carte interactive récit des eaux et des rives, donc une carte sensible et sonore qui documente les enjeux autour de l'eau dans la Drôme. Et donc, c'est à nouveau Damien qui va nous en dire quelques mots.
Oui, carrément. C'est un projet de long cours et qui a abouti tout récemment. Mais avant ça, même, il y a un aspect qui est important ou qui peut être intéressant à dire pour avoir une perspective un peu plus long cours, mais c'est que la Drôme, c'est un territoire un peu particulier et qui a notamment été la première vallée à mettre en place une commission locale de l'eau et qui a voté le premier schéma d'aménagement et de gestion des eaux en France. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un outil qui doit se développer sur l'ensemble des rivières, des bassins versants, des bassins hydrographiques. Donc il y a vraiment eu une identité commune autour de cette rivière Drôme et sur l'ensemble du bassin, de l'amont, donc du Haut-Diwa jusqu'à la confluence avec le Rhône, vers l'Auriol-Livron. Et ça a été un support aussi de construction d'identité territoriale et de lien avec l'ensemble des habitants, quels qu'ils soient sur ce territoire. La rivière a été bien défoncée, bien polluée pendant quelques temps, et du coup c'est cet état de fait compliqué qui a amené l'ensemble de cette dynamique pour dépolluer, prendre soin de l'eau, de la rivière, et essayer de mieux réfléchir aux différents usages, aux équilibres des usages, et à avoir des endroits où on permet la discussion et les arbitrages autour d'éventuels conflits qui est autour de tout ça. Mais donc ça, c'était juste un petit mot pour donner un bout d'historique autour de cet objet et de ce territoire un peu particulier. Mais donc tout ça, ça a pu se traduire aujourd'hui sur une super carte magnifique qui s'appelle Récit des eaux et des rives, parce qu'en effet, là, je suis rentré sur un aspect très institutionnel, mais en fait, l'eau, elle est quotidienne, permanente, on vit tout le temps avec, et il y a une diversité de relations, d'usages et donc du coup d'histoires aussi, plus ou moins anciennes, qui sont ici mises en scène, mises en avant, mises en exergue par un boulot radiophonique, un boulot aussi graphique. Et donc je vous invite vraiment à rentrer dans cette carte où on y navigue et en zoomant, dézoomant, on voit l'ensemble des personnes qui ont pu raconter des histoires avec l'eau. Je vous cite juste quelques titres de ces capsules qui derrière permettent d'entendre les personnes concernées autour de ces différents sujets qui ont un lien avec l'eau. Une toute petite source à Vachère, le captage de Sainte-Croix, la leçon du castor, le fontaigneux du Perrier, l'intelligence du milieu, et j'en passe, il y en a des dizaines et des dizaines. Vraiment, je vous invite à regarder, c'est un boulot qui a été mené du coup par la bande sonore qui est à Di, avec Caroline Fontana qui a été à la manœuvre, et derrière Émilie Belmont, une chercheuse qui s'appelle Sabine Girard aussi, qui travaille sur ces questions-là, et puis un illustrateur, Yann également, qu'on connaît bien par ailleurs, parce qu'il nous a aussi prêter ses talents d'illustrateur pour justement les affiches de la guinguette d'Elisa. Mais donc là, il a fait aussi un énorme boulot pour rendre visible également tous ces bouts de récits qui forment une forme de paysage composite et multiple de ce que peut être la relation à la rivière qui coule juste en bas d'ici.
Merci. On se dirige vers la fin de cette émission, donc vous pourrez retrouver les liens de ces deux projets de cartographie, donc Récit des eaux et des rives, de la bande sonore et la Cartodroma, donc dans le descriptif de notre émission. Voilà, c'était le collectif Reprise de Terre, donc en direct de la Drôme dans le village de Vercheny. Merci donc à Damien, à Romy, à Lucie, Julie, à Lé, Ezié et Tanguy qui a contribué aussi à l'écriture de cette émission. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles enquêtes Reprise de Terre.